Tous les jeudis à 9h et 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 9h et 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Ouais, oui, parce qu'avant, le vendredi, c'était apostrophe et le mercredi, c'était ex libris, très humblement. La librairie Caractère Social Club s'invite le jeudi matin sur MDM, voilà.
Bonjour.
Planter le décor.
Ouais, je vois hein, ça.
Tout en humilité. Comment ça va, ma chère Aurore?
Oui, ça va très bien.
Bien. Tu te frigorifies
ça, oui, non, ça va. De saison, non? Très
oui,
bien.
Très ouais. Bien. Avec quoi va-t-on se réchauffer? Alors, c'est presque, on va attaquer d'emblée.
Ouais.
Vous faites dans la météo maintenant, vous?
Entre autres, oui.
Ouais,
ah, ça, pour le tempête d'André Michaud.
Vous voulez ouvrir par celui-là?
Oui, ou... ça, très bien. Ça
d'accord,
me va.
Ça vous va? Non, mais on va rebondir sur l'actualité, puisqu'on a, il y a la tempête Hervé, je crois, en Corse.
Ouais.
Et alors, ça, c'est assez, enfin, c'est assez surprenant. C'est pas la première fois que la météo est indécise. Mais une météo, je sais pas si vous avez suivi ça, une météo, une tempête qui doit débouler en début de semaine prochaine, sauf que les météorologues sont incapables de dire à 2000 km près où ça
où
va tomber.
Que...
ça bah peut oui. être entre l'Écosse et la Bretagne, en gros,
bon.
Qui est quand même assez large. Et on n'en connaît même pas l'intensité qui pourrait être, a priori, quand même assez redoutable. Mais là n'est pas le propos. Tempête dans une librairie, que se passe-t-il avec André et eux, Michaud?
André Michaud. Alors là, je vais vous parler aujourd'hui de deux polars.
Ouais.
Alors, on les appelle polars parce que c'est, ils seront dans ces rayons-là en librairie, mais... Moi, je tiens à saluer les éditeurs qui ont tendance maintenant à décloisonner les genres, vraiment. Les polars ne sont plus forcément des polars, mais des romans noirs. Ceux qui lisent de la littérature dite blanche peuvent aussi vouloir de l'intrigue et de l'angoisse, pourquoi pas. Donc, je remercie les éditeurs de faire confiance aux libraires pour proposer les bouquins, parce que là, ouais. C'est deux policiers...
Je spoil un petit peu, l'auteur de Donbass, puisque c'est le, de
ouais.
ça qu'on va parler, il décloisonne aussi le genre, puisque c'est
ouais.
lui qui a eu le prix Albert Londres,
c'est
si je me souviens bien, et c'est une sorte de polar, oui c'est un polar,
mais...
policier politique, enfin voilà.
Mais le propos, dans les deux romans, il y a une enquête, il y a des meurtres ou des assassinats, on verra, mais le propos est vraiment tout le contexte, bien plus que,
oui.
Ou alors la plume, parce que la plume d'André Michaud est quand même exceptionnelle, et pour Benoît Vidkin, c'est vraiment tout le contexte, le décor qu'il a planté, dans lequel il met aussi son enquête.
Mais... Journaliste au Monde.
Voilà. Non, ben on va
en parler après.
On va en parler. Du coup, je commence par
bien divulgâcher tout.
Ouais. Eh ben, divulgâchons.
Divulgâchons tempête.
Mot québécois comme André Michaud, qui est québécoise.
D'accord. Rien à voir avec le poète belge.
Aucune idée, non, je pense pas. Maintenant, les Michauds, il y en a énormément.
Oui, ça devrait aller.
Au Québec.
J'en ai connu un à l'armée. Enfin, peu importe.
Là, c'est deux romans francophones,
oui.
mais aucun des deux ne se passe en France. Là, André Michaud, qui est donc québécoise, qui avait écrit, c'était en 2016, le titre Bondré, qui était aussi un roman noir et qui était excellent, enfin, qui l'est toujours. Là, vient de sortir aux éditions Rivage Noir, le titre Tempête, au pluriel. On est vraiment, alors la couverture, on voit un petit chalet complètement pris sous la neige au pied d'une montagne avec une forêt complètement enneigée. Bon, c'est complètement le contexte de ce livre. On est vraiment dans un roman d'atmosphère qui est encore plus inquiétant que ne pouvait l'être Bondré. André Michaud va plus loin là dans l'angoisse, c'est vraiment son thème favori, plus que le policier, c'est vraiment tous les mécanismes de la peur, comment ils se mettent en place, et là dans un paysage d'une exceptionnelle beauté, même d'une écrasante beauté, puisqu'on est au pied d'une montagne qui s'appelle le Massif Bleu. Alors le roman est construit en deux temps. On est d'abord en hiver d'un côté de la montagne, donc ce fameux Massif Bleu qui s'exprime de façon autoritaire. On le verra. La montagne est vraiment le troisième personnage important de ce roman. On suit Marie Saint-Onge qui vient d'emménager dans une petite maison chalet isolée au pied de la montagne, une maison qui lui a été léguée par un oncle qui est étrangement suicidé. Elle va intégrer cette maison pleine de pleine d'histoires et de vraiment étrange comme maison. Une tempête fait rage, donc elle est complètement isolée sous la neige. Alors on imagine, André Michaud nous le dit très bien, la tempête fait rage, des ombres dehors peuvent surgir, elle va personnifier des arbres, des tempêtes. On sent qu'elle est, elle sombre un petit peu dans la folie. Donc elle est isolée, apeurée, quand soudain on frappe à la porte.
Ah ben ça va aider ça.
Voilà. je vais rien raconter d'autre.
Ça va aider à aller mieux, oui, je pense.
Si ce n'est que tout le roman est dans un premier temps, est à la première personne. Nous sommes vraiment dans la tête de Marie Saint-Onge. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui est hallucination, qu'est-ce qui est réalité. Alors, évidemment, c'est fait exprès. André Michaud prend un malin plaisir à nous perdre comme ça dans les hallucinations de Marie Saint-Onge, parce qu'on voit le monde à travers ses yeux à elle, et on est piégé dans ce qui semblerait être la folie de Marie Saint-Onge. Deuxième temps du roman, on est en été, sur l'autre versant de la montagne. Et là, cette fois, on suit Rick Dubois, qui s'installe dans un camping au pied de la montagne, pour finir le roman d'un auteur mort récemment, dont il était le prête-plume. Donc, il y avait un auteur qui écrivait les romans, et Rick Dubois faisait le tour des médias, la presse, et puis tous les petits fours, en disant que c'est lui qui avait écrit le livre. Mmh. Ça arrangeait bien l'auteur qui, comme ça, pouvait écrire. Et Rick Dubois, ça lui arrondissait largement ses fins de mois. Mais bon, l'auteur est mort, étrangement mort, d'ailleurs. Donc, il se dit qu'il sera bien capable de pouvoir écrire la fin du dernier roman. Donc, il s'installe dans ce camping. Évidemment, il est très mal accueilli parce qu'il ne fait pas partie de ce monde. Et là, encore, les éléments vont se déchaîner. Tempête, pluie diluvienne, et plein de cadavres vont surgir. Évidemment, c'est l'étranger qui va être accusé en premier, donc Rick va être accusé.
Les cadavres ne surgissent pas, on les provoque.
Mais voilà, on ne sait pas trop. L'enquête est bien là, même du côté, en hiver, du côté de Marie, comme il y a des disparitions étranges, un inspecteur est là, on mène l'enquête, mais c'est vraiment pas le propos du livre, c'est vraiment l'atmosphère, et comme je disais, André Michaud distille l'angoisse de façon magistrale. J'ai bien angoissé. elle s'interroge donc sur les mécanismes.
Vous êtes fait peur toute seule, vous habitez à la campagne, vous entendez les volets claquer, le vent souffler.
On n'a pas frappé la porte.
Le bruit des branches, les hiboux.
Donc, la peur de la mort est quand même la peur ultime. On le verra pour ces deux. Pour ces deux personnages. Donc André Michaud a eu vraiment une plume complètement raffinée, c'est ciselé, c'est très très beau. L'atmosphère est complètement angoissante. Je ne lirai pas de polar pour les prochains mois, je vous préviens. Et la nature est complètement déchaînée. J'adore cette montagne qui a le dernier mot finalement. Donc je me suis alors régalé n'est pas le mot, je me suis bien fait peur,
plaisir
avec...
coupable à ouais, se faire peur avec...
mais oui, mais c'est bien, c'est le propos du roman, de vivre des émotions fortes mais sans sortir de son canapé.
Oui.
Voilà. Donc, ouais, Tempête,
en restant sous le plaid,
voilà, d'André Michaud aux éditions Rivage Noir, qui vient de paraître.
On va aborder la seconde partie, ce sera juste après une petite pause musicale. Avant, je suis quand même obligé d'évoquer l'événement avec un E majuscule. Ce sera vendredi soir dans vos murs à la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan.
Gérard Mordilla sera présent demain à la librairie Caractère. On est tellement contents.
Gérard Mordilla, qu'est-ce que je pourrais dire moi personnellement? Alors il y a le romancier, il y a l'essayiste que certains connaîtront, très proche, hein, de très imprégné de la classe ouvrière.
Ouais.
Et pour celles et ceux qui sont un petit peu moins à la littérature, qui sont plus sur ses réalisations. Moi je l'ai connu, j'étais tout minot, ça vous forge un homme, et notamment l'humour noir. C'est un film qui s'appelait Fucking Fernand. Si vous avez jamais vu ça, c'est monstrueux. C'est avec Jean Yann et Thierry Lhermitte qui jouent le rôle d'un non-voyant puceau et détraqué sexuel en même temps, qui se retrouve dans un couvent. C'est une espèce de, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une espèce de la grande vadrouille hardcore, c'est absolument génial. Et surtout, alors là je parle au plus grand nombre, Gérard Mordillat, c'est l'auteur du clip de Mistral gagnant de Renaud, la chanson présentée comme la chanson préférée des Français. On a tous le frisson rien qu'en revoyant les images. On va s'écouter Renaud comme on l'aimait à l'époque, dans les années 80, quand il était mordant. Et on reparle de Gérard Mordillat, et on reparle de littérature, et on reparle du prix Albert Londres d'ici quelques minutes. À tout à l'heure. Allez.
MDM, tout un monde.
Mes chansons, soit des caresses ou bien des poings dans la gueule, à qui ce soit que je m'agresse, je veux vous remuer dans vos fauteuils. Alors écoutez-moi un peu, les pouces mégots et les nez de beaux, les ringards, les folques, les journaleux. Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé, je suis pas chanteur pour mes copains, et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sous le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Tous ceux qui me traitent de démagos dans leur torchon que je n'irai jamais. Renaud c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. De toute façon je chante pas pour ces blaireaux et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule. Tant qu'il y aura de la haine dans mes seringues, je ne chanterai que pour les dingues. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que les mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur calot. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber. J'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est pas demain qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes. Je dois dire celui qui les fera crever. Moi ces jours-là je reste dans ma turne. Rien à foutre de la lutte de crasse, tous les systèmes sont dégueulasses. Je veux pas encaisser les drapeaux, quoique le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue, et votre république, moi je la tringle. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Puis qu'on m'a tiré mon canif un soir au métro Saint-Michel. Je fous plus les pieds dans une manif, sans un nunchak ou un cocktail. À Longwy comme à Saint-Lazare, plus de slogan face aux flicards. Mais des fusils, des pavés, des grenades, gueuler contre la répression en défilant Bastille Nation. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux nez de bœuf et aux pouces mégots qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je me retrouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à Baler. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono. Pour l'instant ma gueule est sur le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais faites gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue.
Toujours sur les 101 points de Radio MDM.
Sur MDM.
Sur MDM.
Sur MDM.
Sur MDM.
MDM, votre radio locale.
C'était bien quand il était acide, quand il était critique, c'est un euphémisme, quand il était corrosif. Renaud et pas forcément les chansons souvent les plus évidentes, les plus célèbres. Renaud, évidemment, et la tendresse de Renaud Mistral gagnant, le clip signé Gérard Mordillat à l'époque. Gérard Mordillat, réalisateur, mais aussi essayiste et romancier, invité, s'il vous plaît, de la librairie Caractère Social Club pour parler de son actualité, j'imagine.
Oui, alors de toute son œuvre.
Et encore, on fait carrément focus.
On n'aura pas le temps. Non, surtout le dernier, ce sera une rencontre animée par Romain et par Olivier Sadoul de la Ligue de l'Enseignement.
Très bien, ça va être un chouette plateau, ça.
Ça va être un plateau génial, oui.
Début des réjouissances, quelle heure?
19h.
19h, ce vendredi. vendredi dans la rue du Maréchal Bosquet. On va parler cette fois-ci d'une autre plume, d'un stylo aussi également. Talentueux. Alors, si vous êtes là des fidèles, je me réfère toujours à l'image ce matin, décidément. Je crois que c'est il y a 24 heures ou 48 heures, il était l'invité de Quotidien chez Yann Barthès.
J'ai vu ça en vous allant voir son actualité.
Et lui, il m'a agacé parce qu'il est talentueux. En plus, il est beau, il est drôle. Mais moins son bouquin.
C'est son premier, c'est son premier roman. Alors alors on parle de Benoît Vidkin parce que bon, on l'a pas cité encore. Benoît Vidkin, prix donc Albert Londres
qui récompense,
l'année dernière, qui récompense. Alors il a été récompensé pour 6 de ses enquêtes, toutes tenues en Ukraine. Alors le titre du roman c'est Donbass. Donc directement on plante complètement le décor. Benoît Vidkin donc est correspondant Le Monde à Moscou, et il connaît bien aussi toute cette tout ce territoire ukrainien. Alors moi, c'est évidemment pour l'Ukraine que je me suis jetée sur ce roman. Je ne maîtrise évidemment pas tout le conflit qui se joue et trame là-bas en Ukraine. Cela dit, ça me semble hyper important, bien plus important que... Enfin, c'est pas un conflit que l'on couvre quotidiennement
c'est pas très sexy.
Dans les médias. Voilà. Pourtant, c'est quand même un conflit armée qui a lieu sur le territoire européen. Il me semble qu'il n'y en a pas tant que ça.
Mais ça c'était le cas en Irlande du Nord, le cas dans les Balkans, Serbie ou en Bosnie-Herzégovine. Quand je dis c'est pas sexy, c'est il n'y a pas de pétrole.
Il y a d'autres enjeux. Il y a complètement d'autres enjeux. Alors,
qui concerne moins les Européens, mais plus Vladimir Poutine.
Entre autres. Bon, on ne va pas faire de géopolitique là, encore que c'est le propos du roman. Donc, et Benoît Vidkin le disait très bien que toutes les guerres contemporaines, c'était des guerres de communication. Il faut juste déterminer qui ment dans l'histoire et c'est son
qui communique,
job.
C'est pas qui communique quoi, c'est qui communique
qui communique bien, mal. Et donc, dans ce roman, il va tenter de bien donc planter son décor et de nous expliquer tout ce qui se trame dans cette période. On est en 2014, en plein dans cette période où le conflit est là, mais bien plus latent, la population s'est habituée, si on peut encore le dire. Et il va nous expliquer tout ce conflit. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être moins, le Donbass, c'est une région qui est à l'est de l'Ukraine. C'est une région minière et industrielle qui fournissait en charbon, je crois, toute l'URSS à l'époque. C'est une région qui connaît donc là un conflit armé entre les séparatistes russophones, pro-russes, et le nouveau gouvernement ukrainien, qui est a priori un petit peu plus pro-Europe. En même temps de ça, la Crimée, qui est aussi une région ukrainienne, a été annexée par la Russie. Donc, il se joue quand même quelque chose d'important là-bas.
Serait-il pas en train de se récupérer toute l'Ukraine, le père Vlad ?
Oui, c'est un peu... Alors,
ou du moins les points intéressants.
C'est important d'aller se renseigner là-dessus. Mais j'en reviens donc à mon Benoît Vidkin et ce prix Albert Londres. Le jury a salué pour ses enquêtes l'élégance de sa plume et l'originalité de son approche. Eh bien, il en est de même pour ce roman. Paru aux éditions Les Arènes, qui s'appelle Donbass. Donc, l'action se passe à Avdiïka, qui est une ville sous autorité ukrainienne, mais très proche de la ligne de front. Là, la police a été remplacée par l'armée. La police n'a plus qu'un rôle complètement secondaire. Cependant, notre policier héros, qui est Henrik Kavadze, qui est un personnage complètement cynique et un brin désabusé, mais comment ne pas l'être quand on vit ce qu'on est en train de vivre. Il se voit confier une affaire de meurtre. Alors les morts littéralement pleuvent là-bas, mais là il se voit confier une affaire. Il s'agit d'un enfant qui est poignardé. Donc cette affaire va délier les langues et briser tous les tabous. Alors c'est une enquête semée d'embûches, surtout par les autorités elles-mêmes. Ce qui est important dans ce roman, c'est pas tant l'enquête, c'est vraiment le contexte, c'est vraiment un prétexte pour rencontrer la population qui vit là-bas, qui vit ce quotidien, qui est en guerre. Il y a des tanks, des obus et tout ça juste là, à quelques heures d'avion d'ici. Donc il nous décrit vraiment bien.
Je te conseille d'éviter la région quand même, hein, puisque.
Oui, non, en tourisme, non, évidemment que non. Donc je vais juste vous lire un tout petit passage qui illustre bien le quotidien de cette population. En réalité, un obus, ça va. On s'habitue à tout, on sursaute et ça passe. Tu sais ce qui me rend folle quand j'entends une explosion ? C'est la certitude de savoir qu'il y en aura une autre, puis une autre. Ce n'est pas l'obus qu'on entend tomber qui nous tue, c'est celui d'après, celui qui va arriver ensuite. Voilà, juste un petit paragraphe. C'est comme ça tout du long.
Ouais, au bruit de la violence
au bruit des
guerrières
des,
ordinaires.
Oui, les enfants qui tentent d'aller à l'école, enfin ce qui reste d'école.
Ouais.
Les ONG qui tentent d'apporter des rations à ceux qui n'ont pas voulu partir. En fait, Benoît Witkins s'interroge aussi beaucoup sur... Pourquoi les gens ne fuient pas ? Pourquoi les gens restent et ne s'en vont pas ? Donc, il répond surtout à cette question, plus que l'enquête. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les éditeurs cassent un petit peu les décloisonnent.
Ouais.
Oui, on peut appeler ça un polar, mais je pense que ceux qui habituellement n'aiment pas lire de polar, parce que c'est l'enquêteur alcoolique et désabusé qui va essayer de résoudre l'enquête. Ce n'est pas du tout le propos du voilà. Ce n'est pas du tout le propos du roman. Là, c'est vraiment d'écrire une population en guerre et essayer de décrypter ce conflit armé.
Ouais.
Plus qu'une enquête, journalistique. Lui donne un petit peu moins de liberté que ce qu'il peut faire là dans un roman. Alors tout le contexte est vrai et hyper documenté, mais là-dessus, il va mettre des personnages et une enquête pour le roman et la trame du récit.
À l'Est, rien de nouveau, c'est même pire. On dira ça. Donbass, donc avec Benoît, comment le prononcer ?
Witkin, le premier roman de Benoît Witkin, journaliste, qui s'appelle Donbass, paru aux éditions Les Arènes.
Et Tempête au pluriel, signé André Michaud aux éditions
Le Rivage. Voilà. Il y en a plusieurs.
Voilà pour le tandem binôme couple de bouquins à mettre sous le coude. On parlait donc de Gérard Mordia, c'est l'événement, d'autres choses en prévision.
Alors la librairie est partenaire du salon, la convention Tatou.
Dont vous avez bien parlé jusque-là,
avec l'exposition Marin Tatoué et Mauvais Garçon.
Oui, oui, c'est un bouquin qu'on avait présenté ici, qui est absolument génial.
Qui est génial. On avait eu une exposition des Marins Tatoué à la librairie. Donc si vous l'aviez raté, vous avez la possibilité...
En grand format au musée d'Espiolvéric.
Voilà. De l'avoir.
Avec on est vraiment dans les mauvais garçons, c'est-à-dire les tatoués, c'est les années 30, je crois, des mecs qui sont au bagne.
Oui,
voilà,
et la signification des tatouages.
C'est ça, voilà. On est vraiment dans du viril, le tatouage a bien muté. Et les femmes, les premières, se le sont bien appropriées.
Et ça, on le verra au salon.
Et on n'est pas les premiers à s'en réjouir, les derniers non plus. Qu'est-ce que je dis ? Il est temps d'y aller, je vous laisse filer devant et je prends le relais, je passe la main aussi à Margot Labarthe qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes.
Oui.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 9h et 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.